Maurice Leblanc, Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. Deuxième nouvelle, Arsène Lupin en prison, deuxième partie. Les deux agents reprenaient peu à peu connaissance avec cet air hébété de ceux qui sortent du sommeil hypnotique. Ils ouvraient des yeux étonnés, ils cherchaient à comprendre. Quand Ganimard les interrogea, ils ne se souvenaient de rien. « Cependant, vous avez dû voir quelqu'un ?»« Non. »« Rappelez-vous ?»« Non, non. »« Et vous n'avez pas bu ?» Ils réfléchirent et l'un d'eux répondit « Si, moi j'ai bu un peu d'eau. » « De l'eau de cette carafe ?»« Oui, moi aussi, » déclara le second. Ganimard la sentit, la goûta. Elle n'avait aucun goût spécial, aucune odeur. « Allons, » fit-il, « nous perdons notre temps. Ce n'est pas en 5 minutes que l'on résout les problèmes posés par Arsène Lupin. Mais morbleu, je jure bien que je le repincerai. Il gagne la seconde manche, à moi la belle. » Le jour même, une plainte en vol, qualifiée, était déposée par le baron de Cahorn contre Arsène Lupin, détenu à la santé. Cette plainte, le baron la regretta souvent quand il vit le malaquis livré aux gendarmes, aux procureurs, aux juges d'instruction, aux journalistes, à tous les curieux qui s'insinuent partout où ils ne devraient pas être. L'affaire passionnait déjà l'opinion. Elle se produisait dans des conditions si particulières, le nom d'Arsène Lupin excitait à tel point les imaginations que les histoires les plus fantaisistes remplissaient les colonnes des journaux et trouvaient créance auprès du public. Mais la lettre initiale d'Arsène Lupin, que publia l'Écho de France, et nul ne sut jamais qui en avait communiqué le texte, cette lettre où le baron Cahorn était effrontément prévenu de ce qui le menaçait, causa une émotion considérable. Aussitôt, des explications fabuleuses furent proposées. On rappela l'existence des fameux souterrains et le parquet influencé poussa ses recherches dans ce sens. On fouilla le château du haut en bas. On questionna chacune des pierres. On étudia les boiseries et les cheminées, les cadres des glaces et les poutres des plafonds. À la lueur des torches, on examina les caves immenses où les seigneurs du Malaquis entassaient jadis leurs munitions et leurs provisions. On sonda les entrailles du rocher. Ce fut vainement. On ne découvrit pas le moindre vestige de souterrain. Il n'existait point de passage secret. Soit, répondait-on de tous côtés, mais des meubles et des tableaux ne s'évanouissent pas comme des fantômes. Cela s'en va par des portes et par des fenêtres. Et les gens qui s'en emparent s'introduisent et s'en vont également par des portes et des fenêtres. Quels sont ces gens? Comment se sont-ils introduits? Et comment s'en sont-ils allés? Le parquet de Rouen, convaincu de son impuissance, sollicita le secours d'agents parisiens. Monsieur Duduit, le chef de la sûreté, envoya ses meilleurs limiers de la brigade de fer. Lui-même fit un séjour de 48 heures au Malaquis. Il ne réussit pas davantage. C'est alors qu'il manda l'inspecteur principal Ganimard, dont il avait eu si souvent l'occasion d'apprécier les services. Ganimard écouta silencieusement les instructions de son supérieur, puis, hochant la tête, il prononça « Je crois que l'on fait fausse route en s'obstinant à fouiller le château. La solution est ailleurs. » « Et où donc ?»« Auprès d'Arsène Lupin. » « Auprès d'Arsène Lupin ? Supposer cela, c'est admettre son intervention. » « Je l'admets. Bien plus, je la considère comme certaine. » « Voyons, Ganimard, c'est absurde. Arsène Lupin est en prison. » « Arsène Lupin est en prison, soit il est surveillé, je vous l'accorde. mais il aurait les fers aux pieds, des cordes aux poignets et un bâillon sur la bouche, que je ne changerais pas d'avis. Et pourquoi cette obstination? Parce que seul Arsène Lupin est de taille à combiner une machine de cette envergure et de la combiner de telle façon qu'elle réussisse comme elle a réussi. Des mots, Ganimard, des mots, qui sont des réalités. Mais voilà qu'on ne cherche pas de souterrains, de pierres tournant sur un pivot et autres balivernes de ce calibre. Notre individu n'emploie pas des procédés aussi vieux jeu. Il est d'aujourd'hui, ou plutôt de demain. Et vous concluez ? Je conclus en vous demandant nettement l'autorisation de passer une heure avec lui. Dans sa cellule ? Oui. Au retour d'Amérique, nous avons entretenu, pendant la traversée, d'excellents rapports. Et j'ose dire qu'il a quelque sympathie pour celui qui a su l'arrêter. S'il peut me renseigner sans se compromettre, il n'hésitera pas à m'éviter un voyage inutile. Il était un peu plus de midi lorsque Ganimard fut introduit dans la cellule d'Arsène Lupin. Celui-ci, étendu sur son lit, leva la tête et poussa un cri de joie. « Ah, ça, c'est une vraie surprise, ce cher Ganimard ici !» Lui-même. « Je désirais bien des choses dans la retraite que j'ai choisie, mais aucune plus passionnément que de vous y recevoir. » « Trop aimable. » « Mais non, je professe pour vous la plus vive estime. » « J'en suis fière. » « Je l'ai toujours prétendu. Ganimard est notre meilleur détective. Il vaut presque, vous voyez comme je suis franc, il vaut presque Sherlock Holmes. Mais en vérité, je suis désolée de n'avoir à vous offrir que cet escabeau. Et pas un rafraîchissement, pas un verre de bière. Excusez-moi, je suis là de passage. » Ganimard s'assit en souriant et le prisonnier reprit, heureux de parler. « Mon Dieu, que je suis content de reposer mes yeux sur la figure d'un honnête homme. J'en ai assez de toutes ces faces d'espions et de mouchards qui passent 10 fois par jour la revue de mes poches et de ma modeste cellule pour s'assurer que je ne prépare pas une évasion. » « Fichtre, ce que le gouvernement tient à moi !»« Il a raison. Mais non, je serais si heureux qu'on me laisse à vivre dans mon petit coin. » »« Avec les rentes des autres. » »« N'est-ce pas? Ce serait si simple. » »« Mais je bavarde, je dis des bêtises et vous êtes peut-être pressé. Allons au fait, Ganimard. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur d'une visite ?»« L'affaire Cahorn, » déclara Ganimard sans détour. « Halte là, une seconde. C'est que j'en ai tant d'affaires que je trouve d'abord dans mon cerveau le dossier de l'affaire Cahorn. Ah, voilà, j'y suis. Affaire Cahorn, château du Malaquis, scène inférieure, 2 rubins, un vateau, quelques menus objets. Menu ? Oh, ma foi, tout cela est de médiocre importance, il y a mieux. Mais il suffit que l'affaire vous intéresse. Parlez donc, Ganimard. Dois-je vous expliquer où nous en sommes de l'instruction ? « Inutile, j'ai lu les journaux de ce matin, je me permettrai même de vous dire que vous n'avancez pas vite. » »« C'est précisément la raison pour laquelle je m'adresse à votre obligeance. » »« Entièrement à vos ordres. » »« Tout d'abord ceci, l'affaire a bien été conduite par vous, depuis A jusqu'à Z. » »« La lettre d'avis, le télégramme, sont de votre serviteur. » Je dois même en avoir quelque part les récépissés. » Arsène ouvrit le tiroir d'une petite table en bois blanc qui composait avec le lit et l'escabeau tout le mobilier de sa cellule, y prit 2 chiffons de papier et l'étendit à Ganimard. « Ah, ça m'est !» s'écria celui-ci. « Je vous croyais gardé à vue et fouillé pour un oui pour un non. » Or, vous lisez les journaux, vous collectionnez les reçus de la poste. Bof, ces gens-là sont si bêtes. Ils décousent la doublure de ma veste, ils explorent les semelles de mes bottines, ils auscultent les murs de cette pièce, mais pas un n'aurait l'idée qu'Arsène Lupin soit assez niais pour choisir une cachette aussi facile. C'est bien là-dessus que j'ai compté. » Ganimard, amusé, s'exclama. « Quel drôle de garçon vous faites! Vous me déconcertez. Allons, racontez-moi l'aventure. » « Oh, oh, comme vous y allez! Vous initiez à tous mes secrets, vous dévoilez mes petits trucs. C'est bien grave. » Ai-je eu tort de compter sur votre complaisance ? Non, Ganimard, et puisque vous insistez... Arsène Lupin arpenta deux ou trois fois sa chambre, puis s'arrêtant. « Que pensez-vous de ma lettre au baron ? Je pense que vous avez voulu vous divertir, épater un peu la galerie. » Ah, voilà, épater la galerie. Eh bien, je vous assure, Ganimard, que je vous croyais plus fort. Est-ce que je m'attarde à ces puérilités, moi, Arsène Lupin ? Est-ce que j'aurais écrit cette lettre si j'avais pu dévaliser le baron sans lui écrire ? Mais comprenez donc, vous et les autres, que cette lettre est le point de départ indispensable, le ressort qui a mis toute la machine en branle. Voyons, procédons par ordre et préparons ensemble, si vous voulez, le cambriolage du Malaquis. Je vous écoute. Donc, supposons un château rigoureusement fermé, barricadé, comme l'était celui du baron Cahorn. Vais-je abandonner la partie et renoncer à des trésors que je convoite, sous prétexte que le château qui les contient est inaccessible ? Évidemment non. Vais-je tenter l'assaut comme autrefois, à la tête d'une troupe d'aventuriers ? Enfantin. Vais-je m'y introduire sournoisement ? Impossible. Reste un moyen, l'unique à mon avis, c'est de me faire inviter par le propriétaire du dit château. Le moyen est original. Et combien facile ! Supposons qu'un jour, le dit propriétaire reçoive une lettre, l'avertissant de ce que trame contre lui un nommé Arsène Lupin, cambrioleur réputé. Que fera-t-il ? Il enverra la lettre au procureur, qui se moquera de lui puisque le dit Lupin est actuellement sous les verrous. Donc, affolement du bonhomme, lequel est tout prêt à demander secours au premier venu, n'est-il pas vrai ? Cela est hors de doute. Et s'il lui arrive de lire dans une feuille de chou qu'un policier célèbre est en villégiature dans la localité voisine, il ira s'adresser à ce policier. Vous l'avez dit. Mais d'autre part, admettons qu'en prévision de cette démarche inévitable, Arsène Lupin ait prié l'un de ses amis les plus habiles de s'installer à coups de bec, d'entrer en relation avec un rédacteur du Réveil, journal auquel est abonné le baron, de laisser entendre qu'il est un tel, le policier célèbre. Qu'adviendra-t-il ? Que le rédacteur annoncera dans le Réveil la présence à coups de bec du dit policier. Parfait ! Et de deux choses l'une, ou bien le poisson, je veux dire Cahorn, ne mord pas à l'hameçon, et alors rien ne se passe, ou bien, et c'est l'hypothèse la plus vraisemblable, il accourt tout frétillant. Et voilà donc mon Cahorn implorant contre moi l'assistance de l'un de mes amis. De plus en plus original. Bien entendu, le pseudo-policier refuse d'abord son concours. Là-dessus, dépêche d'Arsène Lupin. Épouvante du baron qui supplie de nouveau mon ami et lui offre tant pour veiller à son salut. Le dit ami accepte, amène deux gaillards de notre bande qui, la nuit, pendant que Cahorn est gardé à vue par son protecteur, déménage par la fenêtre un certain nombre d'objets et les laisse glisser à l'aide de cordes dans une bonne petite chaloupe affrétée ad hoc. C'est simple comme Lupin. Et c'est tout bêtement merveilleux, s'écria Ganimard, et je ne saurais trop louer la hardiesse de la conception et l'ingéniosité des détails. Mais je ne vois guère de policier assez illustre pour que son nom ait pu attirer, suggestionner le baron à ce point. Il y en a un, et il n'y en a qu'un.
Lequel ?
Celui du plus illustre, de l'ennemi personnel d'Arsène Lupin. Bref, de l'inspecteur Ganimard.
Moi ?
Vous-même, Ganimard, et voilà ce qu'il y a de délicieux. Si vous allez là-bas, et que le baron se décide à causer, vous finirez par découvrir que votre devoir est de vous arrêter vous-même, comme vous m'avez arrêté en Amérique. Hein ? La revanche est comique. Je fais arrêter Ganimard par Ganimard.
Arsène Lupin riait de bon cœur.
L'inspecteur, assez vexé, se mordait les lèvres. La plaisanterie ne lui semblait pas mériter de tels accès de joie. L'arrivée d'un gardien lui donna le loisir de se remettre. L'homme apportait le repas qu'Arsène Lupin, par faveur spéciale, faisait venir du restaurant voisin. Ayant déposé le plateau sur la table, il se retira. Arsène s'installa, rompit son pain, en mangea 2 ou 3 bouchées et reprit.
Mais soyez tranquille, mon cher Ganimard, vous n'irez pas là-bas.
Je vais vous révéler une chose qui vous stupéfiera. L'affaire Cahorn est sur le point d'être classée.
Hein ?
Sur le point d'être classée, vous dis-je.
Allons donc, je quitte à l'instant le chef de la sûreté.
Et après ? Qu'est-ce que Monsieur Dudouis en sait plus long que moi sur ce qui me concerne ? Vous apprendrez que Ganimard, que le pseudo-Ganimard est resté en fort bon terme avec le baron. Celui-ci, et c'est la raison principale pour laquelle il n'a rien avoué, l'a chargé de la très délicate mission de négocier avec moi une transaction et, à l'heure présente, moyennant une certaine somme, il est probable que le baron est rentré en possession de ses chers bibelots, en retour de quoi il retirera sa plainte. Donc, plus de vol. Donc, il faudra bien que le parquet abandonne.
Ganimard considéra le détenu d'un air stupéfait.
Et comment savez-vous tout cela ?
Je viens de recevoir la dépêche que j'attendais.
Vous venez de recevoir une dépêche ?
À l'instant, cher ami, par politesse, je n'ai pas voulu la lire en votre présence, mais si vous m'y autorisez...
Mais vous vous moquez de moi, Lupin !
Veuillez, mon cher ami, décapiter doucement cet œuf à la coque. Vous constaterez par vous-même que je ne me moque pas de vous.
Machinalement, Ganimard obéit et cassa l'œuf avec la lame d'un couteau. Un cri de surprise lui échappa. La coque, vide, contenait une feuille de papier bleu. Sur la prière d'Arsène, il la déplia. C'était un télégramme, ou plutôt une partie de télégramme, auquel on avait arraché les indications de la poste. Il lut « Accord conclu, 100 000 balles livrées, tout va bien. »
« 100 000 balles, fit-il. »
« Oui, 100 000 francs. C'est peu, mais enfin, les temps sont durs et j'ai des frais généraux si lourds. Si vous connaissiez mon budget, un budget de grande ville. »
Ganimard se leva. Sa mauvaise humeur s'était dissipée. Il réfléchit quelques secondes, embrassa d'un coup d'œil toute l'affaire pour tâcher d'en découvrir le point faible. Puis il prononça d'un ton où il laissait franchement percer son admiration de connaisseur.
Par bonheur, il n'en existe pas des douzaines comme vous, sans quoi il n'y aurait plus qu'à fermer boutique.
Arsène Lupin prit un petit air modeste et répondit.
Bah, il fallait bien se distraire, occuper ses loisirs. D'autant que le coup ne pouvait réussir que si j'étais en prison.
Comment ? S'exclama Ganimard. Votre procès, votre défense, l'instruction, tout cela ne vous suffit donc pas pour vous distraire ?
Non, car j'ai résolu de ne pas assister à mon procès.
Oh, oh !
Arsène Lupin répéta posément. Je n'assisterai pas à mon procès.
En vérité ?
Ah ça, mon cher, vous imaginez-vous que je vais pourrir sur de la paille humide ? Vous m'outragez. Arsène Lupin ne reste en prison que le temps qu'il lui plaît, et pas une minute de plus. Il eût peut-être été plus prudent de commencer par ne pas y entrer, objecta l'inspecteur d'un ton ironique.
Ah, monsieur Raille, monsieur se souvient qu'il a eu l'honneur de procéder à mon arrestation.
Sachez, mon respectable ami, que personne, pas plus vous qu'un autre, n'eût pu mettre la main sur moi si un intérêt beaucoup plus considérable ne m'avait sollicité à ce moment critique.
Vous m'étonnez. Une femme me regardait, Ganimard, et je l'aimais.
Comprenez-vous tout ce qu'il y a dans ce fait d'être regardé par une femme que l'on aime ?
Le reste m'importait peu, je vous jure, et c'est pourquoi je suis ici.
Depuis bien longtemps, permettez-moi de le remarquer.
Oh, je voulais oublier d'abord. Ne riez pas. L'aventure avait été charmante et j'en ai gardé encore le souvenir attendri. Et puis, je suis quelque peu neurasthénique. La vie est si fiévreuse de nos jours. Il faut savoir, à certains moments, faire ce que l'on appelle une cure d'isolement. Et cet endroit est souverain pour les régimes de ce genre. On y pratique la cure de santé dans toute sa rigueur.
Arsène Lupin, observa Ganimard, vous payez ma tête.
Ganimard, affirma Lupin, nous sommes aujourd'hui vendredi.
Mercredi prochain, j'irai fumer mon cigare chez vous, rue Pergolèse, à 4h de l'après-midi.
Arsène Lupin, je vous attends.
Ils se serrèrent la main comme deux bons amis qui s'estiment à leur juste valeur et le vieux policier se dirigea vers la porte.
Ganimard.
Celui-ci se retourna.
Qu'y a-t-il ?
Ganimard, vous oubliez votre montre.
Ma montre ?
Oui, elle s'est égarée dans ma poche.
Il la rendit en s'excusant.
Pardonne-moi, une mauvaise habitude, mais ce n'est pas une raison parce qu'ils m'ont pris la mienne pour que je vous prive de la vôtre, d'autant que j'ai là un chronomètre dont je n'ai pas à me plaindre et qui satisfait pleinement à mes besoins.
Il sortit du tiroir une large montre en or, épaisse et confortable, ornée d'une lourde chaîne.
« Et celle-ci, de quelle poche vient-elle ? » demanda Ganimard.
Arsène Lupin examina négligemment les initiales. « J.B. Qui diable cela peut-il bien être ? Attends.
Ah oui, je me souviens. Jules Bouvier. » Mon juge d'instruction,
un homme charmant.